c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95 où vous nous écoutez eh bien chaque lundi à 19h par exemple sur le 95.0 du côté de Bergerac, Cresse ou encore Sainte-Foy-la-Grande. Pendant une heure, eh bien on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités et ça tombe bien, tout de suite voici le sommaire de l'émission.
On est vraiment bien sans
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition événement de Chute, on écoute la télé. On va revenir dans quelques instants sur le Festival des créations télévisuelles de Luchon qui a vécu sa première et on espère dernière édition numérique. Et on va revenir sur ce palmarès et les réactions exclusives des lauréats Marion Vernoux, la réalisatrice de Comme des Reines, et Andrea Furet qui a raflé le titre de meilleure interprète féminine pour Il et Elle seront nos invités. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine avec Oratika qui sera l'affiche de la série Un homme d'honneur ce soir sur TF1. Nous aurons le plaisir également de recevoir Michel Bernier pour le retour de la stagiaire demain soir sur France 3. Raphaël Messant, également le réalisateur des Damnés de la Commune diffusé demain soir sur Arte, sera également notre invité pour nous parler de ce long métrage animé. Et puis nous aurons également le plaisir de recevoir Jonathan qui occupe vos soirées sur TFX dans la villa des cœurs brisés et va nous raconter quelques petits scoops sur l'émission et sur son aventure. Et puis en fin d'émission, on fait le grand écart avec les grands entretiens sur LCP et Guy Lagache, le journaliste, sera notre invité et va nous parler de ses 6 grands entretiens, ses 6 nouveaux, en tout cas de cette deuxième saison pour lui, qu'il va dérouler pendant donc 3 dimanches sur LCP. Des parcours inspirants, c'est le thème de ces grands entretiens. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chute en écho. Écoute la télé, tout de suite, les audiences.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de lundi dernier, eh bien vous retrouvez par exemple lundi La Traque sur TF1 avec 4 508 000 téléspectateurs et 20,7% de part de marché. Les Rivières Pourpres sur France 2 résistent très bien avec quasiment 4 millions de fidèles avec 17,3% de part de marché. Beau score pour Marie au premier regard avec 2 758 000 téléspectateurs et 12,7% du public. Il y avait le Canal des Secrets sur France 3 mardi et c'est large leader, 5 320 000 téléspectateurs et 23,7% de part de marché. À noter que c'était une rediffusion, soit sur TF1 et deuxième avec 3 281 000. Et puis Pékin Express offre la troisième place sur le podium avec la route des trois continents et ses 2 476 000 fidèles. Sur France 2, eh bien c'était les chatouilles mercredi, très beau score avec 16,1% de part de marché et 3 653 000 téléspectateurs. Top Chef résiste bien sur M6 avec 3 540 000 téléspectateurs et 17,7% du public. Et The Resident sur TF1 ferme la marche avec ses 3 179 000. Jeudi, sans surprise, c'est Gloria qui arrive en tête des audiences à nouvelle création originale TF1. Et vendredi, c'est Koh-Lanta évidemment qui arrive en tête.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Oh, que ça fait du bien d'entendre ce jingle, il y avait longtemps. Tiens, bon, allez, le Festival des créations télévisuelles de Luchon s'est tenu, vous le savez, en numérique et a rendu son palmarès il y a une semaine et on a le temps de capter les réactions des lauréats. Eh bien, chance de vous proposer aujourd'hui le déroulé de ce palmarès avec les réactions. Et pour commencer, on va parler du prix du public de la meilleure série espagnole qui a été attribué à Inés del Alma Mía. Le prix du public de la meilleure web-série a été attribué à Résistance, tandis que le prix du public de la meilleure série mini-série, et là je pense que mon ami Nicolas Gobbe et Eleonore Bernheim doivent être bien contents, c'est L'Art du Crime qui rafle ce prix. Le prix de la meilleure musique originale, c'est pour le téléfilm Les Héritières. Tandis que le prix du meilleur scénario a été attribué à Catherine Rambert et Thomas Boulet pour Il et Elle. Le prix du meilleur espoir féminin a été attribué aux trois jeunes filles du film Comme des Reines, Sarah Isabella, Nina Louise et Bintouba. On va y revenir avec la réalisatrice. Et le prix de la meilleure interprétation masculine a été attribué à Idi Razougli pour le film Comme des Reines. Et on continue à dérouler ce palmarès du festival de Luchon, festival numérique. Et puis un autre film a été couronné de succès, c'est Il et Elle. Succès mérité avec le prix de la meilleure interprétation féminine pour Andrea Furet, qui est absolument incroyable dans ce rôle et qui justement est avec nous. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Merci d'être là. Andrea, ça fait quoi d'avoir le prix de la meilleure interprétation féminine pour un premier grand rôle comme ça, un rôle titre dans une fiction pour TF1?
Ah bah c'est sûr que déjà le fait de savoir que le film allait être en compétition pour le festival de Luchon, déjà c'était une grande fierté. On était vraiment tous très contents. Après j'ai vu les réactions et le film a beaucoup plu. Et c'est vrai que quand on m'a appelé pour me dire oui bonjour Andrea, c'est toi qui as eu le prix de la meilleure comédienne, dans un premier temps j'ai pas trop réalisé parce que je me suis dit il y avait tellement de films en compétition. Sur le coup, ouais, non, j'ai pas du tout réalisé. Et après, voilà, j'ai eu tellement de retours positifs. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour me dire félicitations, bravo, tu mérites. Et c'est donc une grande surprise et une grande fierté. Ravi de voir aussi que du coup le film a plu au public. C'est vraiment le but.
Oui, exactement. Je crois qu'il a beaucoup plu aux festivaliers. Il va beaucoup plaire sur TF1. Andrea, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle très vite au moment de la diffusion du film. Je vous réinvite et on présente le film ensemble.
D'accord.
On est OK? Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas, Andrea, d'avoir été avec nous pour cette petite réaction. Et on se retrouve très très vite dans Chute, on écoute la télé pour la diffusion de Il et Elle sur TF1. À bientôt, Andrea. Merci.
À bientôt.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Et c'est Marion Vernoux que l'on va accueillir maintenant, réalisatrice du film Comme des Reines. Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on le disait, on est en train de dérouler en ce moment le palmarès du festival de Luchon qui s'est clôturé il y a une huitaine de jours. Marion, c'est un carton plein pour Comme des Reines. Comment vous vous sentez là en tant que réalisatrice? C'est une réalisatrice heureuse que l'on a au téléphone?
Écoutez, j'ai pas tellement l'habitude de monter sur l'estrade, moi, mais là, c'est une estrade virtuelle depuis ma cuisine et je suis extrêmement touchée. J'ai tout aimé dans l'aventure de ce film et ce dénouement me fait très plaisir.
J'imagine que quand vous choisissez trois actrices en qui vous mettez votre confiance pour tourner une histoire comme celle-ci et que ces trois actrices-là arrivent ex aequo pour décrocher le prix du meilleur espoir féminin, là vous vous dites, on s'est pas trompé.
Là on se dit que ça relevait de la gageure parce que le casting a eu lieu en plein été, au mois d'août. On est passé, ce qui a été très efficace, par des réseaux de petites annonces et on en a reçu des milliers. Hein. Quand je dis des milliers, c'est vraiment des milliers. Et donc, c'était effectivement un travail assez titanesque de filtrer les candidatures. Et en effet, je crois qu'on a eu l'œil vif et le nez creux. Voilà.
Bon, c'est une belle histoire. On va saluer aussi le travail des scénaristes sur cette histoire de prostitution adolescente. On va en reparler évidemment, Marion, ensemble. Vous reviendrez pour nous en parler au moment de la diffusion. C'est pour France 2, hein, je crois.
Oui, absolument. France 2. Et ce sera, je pense, suivi d'un débat, la diffusion, parce que le film le mérite.
Ah oui. C'est clair, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vraiment un film qui mérite débat et qui risque d'éveiller des consciences. Donc, je vous propose, Marion, on se donne rendez-vous au moment de la diffusion. Vous revenez?
Avec plaisir.
Eh ben, allez, Marion Vernoux, bientôt dans Chute, on écoute la télé pour nous reparler de ce film Comme des Reines qui a été primé, donc, je vous rappelle, au Festival de Luchon. Merci, Marion.
Merci.
Voilà pour le Pyrénées d'or de la meilleure fiction unitaire, le Pyrénées d'or de la presse. À noter donc aussi la mention spéciale du documentaire qui a été attribué à Gofran et les promesses du printemps, et ainsi que le Pyrénées d'or du meilleur documentaire qui a été attribué à Pour ne pas les oublier. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce palmarès des festivals, du Festival des créations télévisuelles de Luchon, qu'on espère revoir en vrai très rapidement. On va marquer une petite pause, on va dérouler nos coups de cœur télé dans quelques instants. Michel Bernier, Or Attica, Raphaël Messan, tout le monde se prépare et Jonathan Davila des cœurs brisés. Bref, on va pas s'ennuyer, alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
Oui, j'en ai suivi des défaites. Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber, se relever, toujours positivé et rester motivé. Tomber, se relever, toujours positivé. Et en toutes circonstances, je garde le sourire. Laissant la place à de nouveaux horizons. Face à l'impasse, forçons et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positivé et rester motivé. Tomber, se relever, toujours positivé. Et en toutes circonstances, je garde le sourire. Circonstances, même si ça me blesse, je préfère courir à l'indifférence et je garde le sourire. Oh oui. Je garde le sourire. Oh.
On écoute la télé, le Talk Show Radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à la série Un homme d'honneur qui démarre ce soir sur TF1. On va suivre l'histoire de Richard Altman, juge bien sur tout rapport et qui voit sa vie basculer le jour où son fils provoque un accident de la route alors qu'il n'a pas le permis de conduire et renverse un motard qui se trouve être votre fils. Or Attica qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Or.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est aussi Mathieu, le fils d'un baron de la drogue, Bruno Riva, votre mari qui est en prison. Mais là où les choses se compliquent, c'est que Richard, c'est le juge lui-même qui a envoyé Bruno Riva en prison et que Bruno Riva a évidemment encore beaucoup de pouvoir là où il est. Et vous jouez donc le rôle de Rebecca, pour qui ça va être un choc évidemment cet accident.
Oui, évidemment c'est un choc parce que déjà c'est mon fils qui est accidenté, qui se retrouve dans le coma. Mais aussi parce que tout d'un coup, tout l'équilibre aussi instable qu'il était, c'est-à-dire que mon mari est en prison, j'ai mon autre fils plus jeune qui lui se destine à des études d'architecte, et tout d'un coup tout ça est bousculé et on va devoir composer avec ces nouvelles données. Et moi qui au départ est une épouse assez douce et docile, je vais me réveiller un petit peu et devoir reprendre les choses en main.
Et oui, c'est ça aussi qu'on voit au fur et à mesure des deux premiers épisodes qu'on va voir. Comment vous le définiriez vous justement ce personnage dans son évolution? C'est un réveil vraiment?
Oui, je pense que un réveil, je sais pas, mais c'est-à-dire que d'être avec un homme comme ça, en plus incarné par Gérard Depardieu, donc c'est vraiment une masse, une figure, une masse, un mafieux comme ça aussi puissant. Moi, je pense que, je l'ai travaillé comme un personnage d'une femme non pas soumise, mais qui un peu en avait fait son parti pris et voilà, était plus sur la douceur, sur quelque chose qu'elle avait accepté. Et puis quand mon mari est en prison, mes enfants il y en a un qui est accidenté, tout d'un coup, il va falloir prendre les choses en main, et plutôt que de laisser les autres ou mon autre fils prendre les choses en main, je décide moi de prendre les choses en main. Et de... Oui, c'est un réveil, c'est même tout ce que je suis peut enfin se révéler. Donc c'est une femme qui devient puissante aussi, qui délivre sa puissance.
Oui, elle passe, on va dire, un peu du retrait à la mise en lumière. Qu'est-ce qui vous a plu en premier dans ce...
Oui, exactement.
Quand vous avez lu le scénario, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Or ?
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'avais fait partie du jury Série Mania, qui est un festival de séries, il y a quelques années.
Oui.
Et on avait donné les deux grands prix à cette série israélienne, puisqu'à la base, c'est une série israélienne qui a cartonné dans le monde entier. On avait donné les deux grands prix à cette série qui était tellement bien faite, tellement bien ficelée, etc. Donc, quand on m'a proposé le remake, on va dire, de cette série, tout de suite, j'étais emballée, puisque je connaissais
l'original.
Le scénario. Mais alors, ça a été très réécrit et c'est très adapté, c'est très différent.
Bien sûr.
Mais évidemment, j'étais très emballée, puisqu'il y a évidemment d'intéressant dans les séries, c'est qu'on a le temps de développer des personnages. Donc voilà, j'ai une première facette et puis une seconde qui se révèle. C'est ça qui est intéressant.
Alors, dans les deux premiers épisodes, on voit un Gérard Depardieu avec un charisme de dingue quand on se retrouve comme ça face à Gérard et à son jeu en tant que baron de la drogue. Là, on doit se dire vraiment, on est là, quoi. On est face à Gérard Depardieu. Et il faut tenir ce charisme-là hein, face à un comédien comme ça aussi.
Oui, ça va, mon charisme, je le tiens.
Ah oui, non, mais par rapport à lui, quand il joue, il a un jeu incroyable en tant que baron de la drogue. C'est vrai que le face-à-face entre vous deux est très, très prenant. Hein.
Bah merci. Oui, mais de toute façon, Gérard, il a un truc de il se pose et il est tout simplement. Dans ces cas-là, on est dans l'écoute et dans la réciprocité, quoi. C'est ça qui permet d'exister aussi, je trouve. Mais ouais.
Est-ce que vous avez un souvenir particulier de tournage, justement, à nous raconter une anecdote?
Ben, avec Gérard, c'était très amusant, parce que, voilà, il est là, il râle, il gueule, donc voilà, les tournages sont assez mouvementés, toujours. donc ça, c'est plutôt drôle. Et puis, qu'est-ce que je peux raconter? Non, il y avait une nuit de tournage, on a tourné en banlieue à Gennevilliers, quand Hélène Vincent m'est apportée, on va dire, sur un plateau d'argent, presque. C'était une scène très technique, en fait, et très difficile à tourner, parce que c'est plein de petits bouts dans tous les sens. C'est des longues nuits comme ça où à la fin de la nuit, on ne sait plus très bien ce qu'on a tourné, on ne connaît plus tellement le résultat de... on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? On a tellement tourné des petits bouts dans tous les sens, qu'est-ce que ça va être à la fin? Et finalement, j'ai vu la scène et ça marche très bien. Mais...
Est-ce que vous avez d'autres projets pour 2021? Or, est-ce qu'on va vous voir dans d'autres choses?
Et écoutez, j'ai tourné dans le premier long-métrage d'Aurélie Saada, la chanteuse des Brigitte, qui s'appelle Rose, avec Françoise Fabian et Grégory Montel. Et Damien Chapelle. Et donc, on a tourné ça, on a fini de tourner en décembre. Donc, on ne sait pas quand ça sort, évidemment. Mais c'est un très beau film sur l'histoire d'une femme, donc notre mère, Rose, jouée par Françoise Fabian, qui, à la mort de son mari, va se réinventer une nouvelle vie. Et comment nous, les enfants, on va plus ou moins accepter qu'une femme d'un certain âge, en fait, que notre mère, de bouger du rôle qu'on lui a assigné, qui était le sien jusqu'à présent, et qu'elle décide d'avoir une nouvelle vie plus libre, plus de femme. Je trouve que c'est un thème très intéressant.
Eh bien, on découvrira ça, j'espère, bientôt, en tout cas au cinéma, quand ça va rouvrir tout ça. On espère que ça va reprendre, en tout cas, très vite. Or, moi, un film où je vous ai beaucoup apprécié aussi, qu'on peut retrouver en VOD et DVD, c'est 10 jours sans maman, l'histoire d'une femme qui plaque tout et qui laisse son mari pendant 10 jours, parce qu'elle en a marre de tout faire, clairement. Et donc, moi, je vous conseille vraiment ce film. C'est une vraie bonne comédie avec Franck Dubosc. Et moi, je vous ai beaucoup apprécié aussi dans cette comédie.
Ah bah merci beaucoup, et je peux vous dire qu'on prépare le numéro 2.
Waouh, ça c'est une bonne nouvelle.
Ouais, j'ai lu la nouvelle version et c'est très 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 drôle.
Bon, on a hâte de vous retrouver. En tout cas, ça va être 10 jours sans papa ce coup-là.
On espère. Maman sera un peu plus là, mais non, vous verrez, c'est très drôle.
Bon, en tout cas, si vous voulez voir le 1, bah, c'est maintenant en VOD et DVD. N'hésitez pas, le film est sorti, voilà, maintenant, il y a un petit peu plus d'un an. Et c'est l'occasion de pouvoir aussi retrouver Horatica dans une belle comédie. Merci beaucoup, Or, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Et puis, on se retrouve dans Un homme d'honneur, ce soir, sur TF1, les deux premiers épisodes. On ne les manque pas. Et puis, on va se quitter avec la bande-annonce. Merci, Or, à bientôt.
Merci, au revoir.
Bah, je vais tout faire pour nous sortir de là. Fais ma confiance. Tu dis que t'as fait une crise d'asthme, sévère. Tu pouvais plus respirer. J'ai besoin d'aide. Il faut que je fasse disparaître cette voiture.
J'espère que tu sais ce que tu fais. On va tous y passer.
Alors c'est moi qui vais m'en occuper.
On s'en va.
Tu peux me dire ce qui se passe?
T'as renversé Mathieu Riva. C'est le fils d'un baron de la drogue que j'ai envoyé en prison.
Ce crime ne doit pas rester impuni.
Si s'il apprend que c'est toi qui as renversé son fils, tu seras plus jamais en sécurité nulle part.
Tant qu'il remonte jusqu'à lui, il aura fait disparaître les preuves.
Fais rien pour attirer l'attention, compris?
On est tous dans la justice pour servir quelque chose.
Pense ton frère, lave l'honneur de la famille. On commence par lui.
Coup de cœur télé consacré à la stagiaire qui fait son grand retour demain soir sur France 3 pour 8 nouveaux épisodes inédits avec Michel Bernier qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Michel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Quel bonheur de vous avoir, Michel, avec nous pour fêter cette 6e saison inédite. Et je crois qu'on peut dire déjà que La Stagiaire, c'est une histoire de changement de vie total pour le personnage de Constance Meillère que vous incarnez maintenant depuis 6 ans, mine de rien.
Oui, c'est ça. En fait, le départ de l'histoire, c'est cette femme qui a vécu un moment difficile dans sa vie puisqu'elle a été accusée à tort d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Et ça l'avait plongée dans les problèmes judiciaires et arrivée à l'âge où normalement on se dit « allez, on va être tranquille ». Elle change de vie. Elle décide de reprendre des études de droit et d'être auditrice judiciaire. Voilà. Et donc, c'est un vrai changement de vie suivi par son mari, par ses enfants, c'était assez moderne, je trouve, comme sujet. Aujourd'hui, on voit bien que les gens se posent des questions sur leur longue vie maintenant. Normalement, on doit vivre tard, donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ces 30 ou 40 prochaines années. Et je pense que c'est un moment où on peut prendre le risque, voilà.
Qu'est-ce qui vous a plu en premier, justement, Michel, dans le pitch, puisque ça a été un pilote pour commencer?
Oui, au départ, ça a été un pilote, oui. Ce qui m'a plu au départ, c'est effectivement cette idée de changement de vie. Et puis, c'est une stagiaire de mon âge, quoi. C'est se retrouver dans une circonstance dans laquelle, normalement, c'est plutôt les 18-25. Et puis, être dans un univers de polar, parce que moi, je suis assez fan des polars, j'aime beaucoup ça, mais qui était un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez les flics. Et le côté de la justice me plaisait bien. Et surtout, un personnage, comme elle prend pas de risque quelque part, elle peut se permettre d'être un peu plus hors cadre.
Alors la stagiaire accompagne un juge qui a été incarné pendant la saison 1 par Ariel Mallet et depuis maintenant la saison 2 par Antoine Hamel, le juge Boris Delcourt. Et puis vous allez évidemment sur les scènes de crime, mais en même temps aussi résoudre des enquêtes tout aussi passionnantes les unes que les autres. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on suit du coup aussi la vie privée des protagonistes.
Oui, mais c'est ce qu'on aime bien aussi dans la série. Et plus ça va en avançant, plus les scénaristes tiennent à cœur aussi. C'est que on arrive de plus en plus à mélanger effectivement les enquêtes et la vie de famille. C'est-à-dire que je pense que la vie de famille, elle est plus que nécessaire puisqu'elle donne un peu d'air dans ces enquêtes qui sont évidemment très rigolo tout ça. Et que la comédie, on peut l'avoir avec la famille, avec mon couple, avec Philippe Lelièvre, avec Boris dans sa vie, procureur Kering dans la sienne. Enfin, disons que ça nous permet comme ça des petites bulles d'air. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi au public.
Alors, j'imagine qu'une prochaine saison est déjà un peu dans les tuyaux, non? Une saison 7?
Mais oui, on part la tournée en juillet, là, si tout va bien.
Bon, alors ouais. Attendez-vous à ce que Nicolas Marié vous fasse quelques petits caprices, parce que vous allez jouer avec Césarisé maintenant.
Attendez.
C'est plus de la rigolade.
Là, je pense qu'il va y avoir une hola quand il va arriver, qu'il va avoir une loge en or. Ça va être terrible. On va plus pouvoir se parler. Maintenant, on va le vouvoyer.
Sacré Nicolas,
en tout cas. Je suis tellement fière.
On est fière de lui.
Tellement fière de lui parce que c'est un tellement merveilleux acteur. Un homme merveilleux humainement, c'est vraiment une crème. C'est quelqu'un de formidable, très agréable avec lequel travailler. Et puis, ce qu'il a dit au César, c'était beau parce que je le connais un peu maintenant et je sais à quel point sa famille compte pour lui et compte plus que tout même. Et quand vous pourrez aller voir le film Adieu les cons, qui est effectivement un film exceptionnel.
Voilà. Exactement, et qui reviendra d'ailleurs sur les écrans dès la réouverture des cinémas. J'en suis certain parce que il a eu qu'une petite dizaine de jours d'exploitation. Et je suppose que toute l'équipe d'Albert Dupontel attend avec impatience cette réouverture.
Oui. Ça, c'est sûr.
Michel, la stagiaire, est-ce qu'il y a un souvenir particulier de cette 6e saison que vous avez envie de nous raconter ou de partager avec nos auditeurs là maintenant?
Écoutez, cette 6e saison, elle a été particulière parce que d'abord on a commencé à tourner avec toutes les contraintes de la Covid. On a eu de la chance, en plus on a pu tourner un épisode. C'est pour ça que j'aime beaucoup notre production et la chaîne qui ont accepté celui-là parce qu'il est un peu à part des autres. Il se passe sur une île en circuit fermé où on est que les couples. On a tourné ça à Bindor, l'île qui est une île qui est juste en face de Bandol dans le sud de la France. Et donc, on a vécu presque en autarcie pendant 12 jours. C'était vraiment presque une petite colonie de vacances, quoi. Voilà, on était entre nous, c'était chouette, c'était super, parce que on a quand même réussi à se marrer en ayant les masques, en ayant le gel, en ayant tout, parce que on s'est dit qu'à un moment, la chance de travailler, c'est vrai, prenait le pas sur toutes ces contraintes.
Oui.
Mais que on était tellement contents que on soit tous en bonne santé, que tout aille bien, que vraiment on continue à être sérieux, quoi.
Question un petit peu plus personnelle, Michel. Je sais que la scène doit énormément vous manquer.
Oui.
Comment vous vivez cette rupture avec le public, en quelque sorte, ne pas avoir le public en face de vous? Je sais que c'est très important pour vous, Michel, moi qui ai eu l'occasion d'aller vous voir sur scène.
Ben, écoutez, ça a été dur comme pour beaucoup, hein, puisqu'on s'est arrêté en plein vol, on va dire, pratiquement du jour au lendemain, si ce n'est d'une heure à l'autre. Bon, tout s'est arrêté. Évidemment, on est tous logés à la même enseigne, dans le sens où on ne sait pas quand. On ne sait pas comment ça va reprendre tout ça, donc on est voilà, on attend, on n'est pas bien, on espère, en même temps on comprend et en même temps on comprend pas. Enfin bon, tout ça est très très compliqué dans nos têtes. Bon, on va espérer que à la rentrée prochaine on va pouvoir reprendre des activités de scène à peu près normales, si tout le monde arrive à se faire vacciner, si voilà, si cette espèce de truc pouvait nous lâcher un peu. Mais non, c'est triste, et c'est triste pour tout le monde, c'est triste pour le public, c'est surtout dans ces moments-là où moi je sais que les gens, ils ont, c'est toujours quand il y a des moments de crise où on nous dit mais heureusement que vous êtes là, ça nous fait du bien de savoir que on peut rigoler, on peut passer voilà 2 heures dans une salle où tout oublier nos problèmes et tout ça. Voilà, on est contrit, malheureux, on espère, faut pas lâcher quoi, le plus dur c'est ça en fait.
Heureusement, vous pouvez encore tourner, mine de rien, pour la télévision, parce que ça, voilà, ça nous permet de passer des soirs avec vous, quoi.
Je suis tellement reconnaissante à la vie de me donner cette chance-là, de pouvoir continuer à faire mon métier. Mais c'est vrai que le spectacle Vive Demain, il s'est arrêté en route, comme beaucoup, et que j'espère qu'on va pouvoir repartir en tournée, retrouver le public, rigoler ensemble, et imaginer qu'on va parler de ça comme d'un souvenir, d'un mauvais souvenir, quoi.
Mais j'en suis certain. Et j'espère vite vous retrouver sur scène, y compris dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine, Michel.
Ah oui, avec joie.
On va se quitter avec la bande-annonce de La Stagiaire. Je vous rappelle que ça revient demain sur France 3 à 21h05. Ne le ratez pas, 8 nouveaux épisodes, c'est parti pour 4 semaines. Et puis si vous n'avez pas vu les autres saisons, ça tombe bien, parce que les 2 épisodes inédits sont suivis de 2 rediffs. Comme quoi, on fait bien les choses chez France 3.
Eh bien oui, hein, comme quoi.
Merci beaucoup, Michel. Et puis je vous dis à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Et un bisou à Charlotte Gassiot, qu'on embrasse très fort, qui est habituée également de notre émission.
Je les embrasse ma fille, j'embrasse mon fils, j'embrasse tout le monde, moi, en ce moment. Même avec les masques, je vous envoie des baisers à travers les masques, voilà.
À bientôt, Michel, merci à vous.
À bientôt, merci à vous, merci.
La chaise d'eau, elle est encore cassée, ça arrête pas de couler.
C'est marrant, ça. Ça arrive seulement quand t'es là. Ce matin, elle marchait très bien.
Bah ouais, mais tout est à chaise dans cette maison aussi. Hein, maman?
On exagère pas, elle a pas été rénovée depuis des années, depuis la mort de tante Jeanne. Hein? Et les cousins sont déjà bien sympas de nous la prêter.
Ah oui, et puis on l'a fait revivre cette maison, c'est vrai, sans moins l'enfermer.
Bon, ça dépend où, hein.
Je suis tellement contente d'aller là-bas. Enfin déballer les cartons, être dans mes meubles.
Mais tant mieux, parce que je me sentais un peu préoccupée.
Ah, ça se voyait tant que ça.
Disons que j'avais plus le droit à vos petites réflexions, vos remarques.
Oh, mais je vais m'attraper. Monsieur le juge, Constance.
Capitaine.
Bonjour. Alors, Bruno Marchand, 51 ans, domicilié à Marseille, dans le 13e. Il est divorcé, il a un enfant à charge. C'est un randonneur qui a perçu le corps dans le fond du ravin, là, vers 15h30. D'après les légistes, il est mort il y a moins de 3 heures.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé, demain sur Arte, vous allez pouvoir découvrir le film d'animation Les Damnés de la Commune, tiré d'une bande dessinée, à la base, de Raphaël Messant, qui a réalisé ce film d'animation. Vous verrez demain soir, pour revenir 150 ans plus tard sur cette histoire des Damnés de la Commune et cette révolution parisienne en 1870. Et c'est Raphaël Messant qui est notre invité pour en parler avec nous, qui est justement le réalisateur. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ça y est, après la BD, on a sauté le pas. On est passé en long métrage animé carrément demain soir pour Arte.
Ah oui, c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années, hein, pour moi, avec ces bandes dessinées, avec ces romans graphiques, ces 3 tomes là, qui font presque 500 pages. Et là, ça s'est développé avec cette aventure extraordinaire qui est la réalisation d'un film d'animation qui est fait exclusivement avec les gravures de l'époque de la Commune de Paris. Donc c'était une prouesse assez importante, un défi à surmonter qu'on a fait avec un studio d'animation et qui est un parisien et qui est aussi installé à Angoulême. On a travaillé dessus depuis 7 mois.
Alors évidemment, voilà, la Charente et la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, sont partie prenante aussi dans ce film d'animation, puisque voilà, il était en partie fabriqué ici, donc c'était important qu'on puisse vous avoir aussi, Raphaël. La Charente, c'est une terre de création vraiment pour le film d'animation, vous y avez trouvé tout ce que vous vouliez.
Alors on a travaillé donc avec ce studio d'animation, Miyu, qui a plusieurs antennes, et une particulièrement à Angoulême. Ça a permis vraiment d'avancer et d'être soutenu aussi par la région, par le département de la Charente. Et puis on a fait surtout l'enregistrement des musiques que vous écoutiez, qui sont magnifiques, qui m'ont bouleversé. On les a faites donc à Rochefort, dans le studio de la Lambra.
Ouais.
Voilà, absolument. Et on a fait le mixage du film. Donc le mixage, c'est quand on a tout, on a l'image, et puis on a les voix, on a les musiques, on a tous les bruitages, et on mixe pour que tout soit équilibré et harmonieux.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, comment on pourrait la définir pour intéresser y compris la jeune génération à venir regarder demain soir sur Arte ?
C'est une histoire qui est totalement inconnue. Qu'on n'apprend pas à l'école, que j'ai jamais apprise à l'école, moi, et comme de nombreuses personnes. C'est une histoire qui, pourtant, est extrêmement importante. Non pas seulement dans l'histoire des gauches, ça c'est souvent rappelé, mais surtout dans l'histoire nationale, dans l'histoire de France, et particulièrement dans l'histoire de la République française. Il y a un siècle et demi, à Paris, mais aussi dans d'autres villes de province, a été proclamée la Commune. Et là, cette Commune, c'est un mot qui, aujourd'hui, ne nous parle pas, mais qui, à l'époque, voulait dire énormément de choses. C'était le rêve d'une république sociale, une république démocratique et sociale. Et elle a été mise en œuvre à Paris pendant 72 jours, massacrée dans le sang par un gouvernement qui s'était réfugié à Versailles. On parle de 20 000 morts. C'est une histoire qu'on ne connaît pas. Un massacre qui a eu lieu dans Paris, au cœur de Paris, avec ces milliers de personnes qui ont été enterrées, d'abord dans un premier temps dans les parcs, dans les jardins, dans les terrains vagues. Et ça, on ne le sait pas. Alors que vraiment, ça a joué un rôle fondamental. Il faut se dire que en 1870, 1871, après plusieurs tentatives de restauration monarchiste, après la fin du Second Empire, environ 20 ans de ce régime despotique, la France s'est retrouvée face à deux chemins. Elle pouvait choisir le chemin d'une république sociale, c'était le chemin qui a été choisi par les communards, et un autre chemin qui était une république de l'ordre social. Et c'est ce chemin qui a gagné il y a un siècle et demi. C'est Versaillais qui sont rentrés dans Paris, qui ont imposé leur régime par la force, en massacrant une partie de la population, donc peut-être 20 000 personnes, qui ont mis en place ces lois organiques de la Troisième République, de laquelle nous sommes les héritiers. Donc rappeler ça, c'est fondamental, savoir d'où on vient, savoir que le régime dans lequel on vit, ce régime de République, n'est pas le seul et l'unique, mais qu'il y en a un autre possible, la République sociale dont rêvaient les communards.
Alors on va suivre cette histoire à travers Victorine, c'était déjà le cas hein, dans la bande dessinée, mais là Victorine a une voix et c'est vraiment un témoignage poignant à travers ce personnage fictif hein, pourtant, mais on a l'impression d'y être avec Victorine dans cette histoire et puis des narrateurs aussi évidemment de talents connus et reconnus aussi qu'on pourra retrouver hein, dans ce film demain.
Victorine n'est pas un personnage fictif, c'est une femme qui a laissé un témoignage, souvenir d'une morte vivante, un témoignage sur la Commune qu'elle a écrit. Elle a vécu cet événement, elle l'a laissé en héritage. Et ce texte a été republié. Moi, je m'en suis inspiré, je l'ai utilisé dans la bande dessinée en utilisant ses mots, hein, mot pour mot, pour ce qu'elle avait dit. Et j'ai repris, je me suis inspiré de ce témoignage dans le livre, dans le film. Et sur une heure et demie, c'est Victorine Brochet, qui nous raconte son histoire, qui nous raconte la Commune de Paris vue de l'intérieur, à hauteur de femme. Et c'était vraiment une petite femme, inconnue, mais aussi physiquement, elle était toute petite, ce qui lui permet de s'échapper par la suite, déguisée en enfant, pendant la semaine sanglante. Cette voix, elle est portée aujourd'hui par Yolande Moreau, qui incarne ce personnage, et qui l'incarne avec douceur, avec subtilité, et puis de manière bouleversante. Et puis il y a Simon Abkarian, qui est le narrateur de ce film, et puis on a 12 grands comédiens et comédiennes qui prêtent leur voix à plusieurs personnages qu'on entend pour une réplique, deux répliques, trois répliques, et qui le font de manière exceptionnelle en soutien aux communards et aux communardes. Et parmi eux, on a Mathieu Amalric, on a Michel Vuillermoz, on a André Dussollier, Fanny Ardan, Jacques Weber, François Morel, Anouk Grimbert, etc., etc.
Ah oui, il y a du beau monde. Comment vous avez fait pour vous entourer comme ça, Raphaël ?
Ben c'est grâce à une productrice exceptionnelle, Fabienne Servan-Schreiber, que j'ai rencontrée quand j'avais publié le premier livre, qui a partagé avec moi son envie de faire un film sur la Commune, cette envie qu'elle avait depuis longtemps et qu'elle avait encore jamais pu réaliser. Moi, je lui ai dit immédiatement que j'avais aussi cette envie-là, que je rêvais d'écrire le scénario, que je rêvais de faire la réalisation, chose que je n'avais jamais faite jusque-là. Et elle m'a dit, D'accord. Elle m'a suivi tout du long pendant cette aventure, depuis 2 ans qu'on travaille ensemble. Elle m'a suivi dans mes délires, mes folies, une chose incroyable, d'imaginer faire un film de gravure animé à des vieux dessins d'il y a 150 ans. Et c'est en parlant des personnes qui pourraient incarner ces communards, ces communardes, on s'est dit, et si on demandait à des grands comédiens et des grands comédiennes de faire ça de manière exceptionnelle, en hommage à ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour cet idéal. Voilà, elle m'a parillonné une nouvelle fois, au contraire. Elle a déplacé ciel et terre, et c'est grâce à ça que toutes ces personnes, ces comédiens, nous ont suivis.
C'est quoi la prochaine étape, Raphaël? Est-ce que vous avez envie de le transposer sur grand écran ou pour la télévision, carrément en film de fiction, pourquoi pas l'avenir?
Alors j'ai beaucoup d'idées et j'en ai une qui est top secrète. Ah. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui.
Bon, ça sera l'occasion de revenir.
Voilà, absolument.
Bon, les damnés de la commune, en tout cas, c'est demain soir sur Arte, on ne le rate pas. Et puis on va se quitter avec la bande-annonce. Merci Raphaël d'avoir été avec nous pour en parler.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
C'est une histoire enterrée il y a 150 ans. L'histoire d'une révolution. La commune de Paris de 1871. 72 jours pour séparer l'Église et l'État, pour instaurer l'instruction laïque et obligatoire, pour rêver d'égalité entre hommes et femmes.
Il faut en finir avec ces misérables. Ces gens qui ont pris Paris ne méritent aucune espèce de pitié.
Fusillez-moi ça!
Notre colère ne se calmera pas. J'en fais la promesse.
Coup de cœur télé consacré à la Villa des Cœurs Brisés, votre série réalité que vous retrouvez bien tous les soirs sur TFX à 19h en inédit. Si vous avez raté l'épisode, vous pouvez le revoir le lendemain à 18h juste avant l'inédit. Et justement, après Lucie Mariotti, la semaine dernière, c'est Jonathan qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour John.
Salut, comment ça va?
Ça va très très bien, je suis très content de t'avoir John. Alors un parcours difficile, une problématique à régler quand t'es arrivé dans cette villa. Évidemment l'arrivée de Sarah a tout compliqué, puis il a fallu enterrer les choses, enterrer le passé avec l'aide de Lucie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui John que Lucie t'a apporté beaucoup aussi dans cette aventure?
Ben, pour être très franc avec toi et avec toutes les personnes qui vont nous écouter, quand tu vas faire la Villa des Cœurs Brisés, tu sais que tu vas être confronté à Lucie. Bon, tu te dis, t'y crois pas. Mais pour être très honnête, je me suis fait surprendre, je me suis fait cueillir. Elle m'a plus qu'apporté, elle m'a permis d'évoluer. En me libérant de certains poids de mon passé, elle m'a permis d'être aujourd'hui une meilleure version de moi-même. Donc une vraie, vraie, vraie métamorphose.
Qu'est-ce qui t'a décidé, justement, à rentrer dans la Villa des Cœurs Brisés?
Si tu veux, il y a des choses que les personnes ne voient pas. C'est tout ce qu'il y a derrière. T'as des productrices, t'as des équipes, elles sont très bienveillantes, elles t'accompagnent, elles t'aident humainement dans ton parcours. C'est un élément qui m'a beaucoup convaincu. Pour être très franc, il y a d'autres télés, même depuis la Villa, qui m'ont contacté, j'ai refusé certains projets parce que c'est pas toujours aussi simple. Il n'y a pas que les strass et les paillettes. Et en l'occurrence, la Villa est un programme quand même très humain. Il y a beaucoup de spectacles aussi, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'humains derrière et ça s'accommodait vraiment avec mon histoire.
John, moi j'ai l'impression que t'es certainement un de ceux qui ont le plus souffert dans ce que j'appellerais presque une thérapie que tu as vécu depuis le début de cette aventure.
Pour tout dire, ça a été les montagnes russes, cette aventure. J'ai vécu des bons moments, bien sûr, mais j'ai eu des moments très difficiles. Donc oui.
Oui, t'as dû partir pas... même pour t'oxygéner un peu. T'as dû même quitter la villa quelques jours.
À certains moments, j'ai songé quitter l'aventure, plus d'une fois d'ailleurs. Tu verras et tu découvriras au fur et à mesure qu'il y a eu d'autres occasions. Je suis quand même très heureux d'avoir pu et d'avoir décidé de rester jusqu'à la fin parce que à la fin, tu verras aussi quelque chose d'exceptionnel, une très très belle surprise. Et en général, il y a beaucoup d'articles et de rumeurs qui sortent concernant le tournage. Ben, je peux t'assurer que ça, c'est l'une des rares choses qui n'est pas sortie. Pour laquelle très très peu, voire personne ne se doute de ce qui va arriver. Donc je suis très content de rester jusqu'à la fin, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'avais jamais vécu et je suis très heureux de l'avoir vécu.
Tu dirais que la villa c'est un accélérateur de vie, le fait de vivre 24 heures sur 24 ensemble comme ça, dans une villa on dit que souvent une semaine c'est presque 2 mois quoi.
Tout est décuplé, chaque journée, chaque aventure. Et ce que les gens ont du mal à saisir, c'est que être enfermé avec des gens dans un contexte particulier, eh ben oui, en effet, ça fait vivre les choses plus intensément, plus rapidement Par exemple, par rapport à Lucie, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui revendiquait le fait que j'avais pas besoin de psy ou de thérapeute et que jamais je serais confronté à quelqu'un de ce métier parce que sinon moi-même je serais poussé à essayer de l'analyser. Eh ben, le fait est que dans cette aventure, j'ai eu la preuve que on peut combattre ses certitudes et parfois en tirer profit. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de choses qui m'ont aidé grâce à Lucie, grâce à cette aventure, que je regrette pas du tout.
Alors, dans l'épisode de vendredi, on a vu l'arrivée de Julie. Ça y est, Julie fait son retour dans la villa. Donc toi, tu ne la connaissais pas. Tu fais partie des rares peut-être qui la connaissaient pas juste avant. Mais ça va rebattre un peu les cartes de l'aventure, mine de rien.
Bah écoute, il y a beaucoup de nouvelles arrivées au fur et à mesure de l'aventure. Et d'ailleurs, il va y avoir des arrivées de personnes avec qui je m'entends pas toujours. Ça risque de créer quelques étincelles. La magie de cette aventure, c'est que parfois, les gens avec qui c'est la guerre, eh ben, ça se transforme. Et je t'en dis pas plus, mais tu verras que t'es vraiment pas au bout de tes surprises dans cette aventure.
Quels sont les parcours qui t'ont le plus ému de tes colocataires, on peut dire, en quelque sorte?
Franchement, il y en a pas mal.
Oui.
Il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert via les épisodes, c'est ce que va vivre Eva.
Ouais.
Eva, je l'ai considérée un peu comme une sœur. J'ai pris soin d'elle, je l'ai défendue. Et là, on a l'impression que tout va bien pour elle, qu'elle vit très bien son aventure. Mais il va y avoir des moments très difficiles qui vont arriver.
Ouais, on a découvert l'histoire sur son père justement vendredi dans l'épisode. C'était très très poignant et j'imagine qu'on n'a pas fini encore d'en entendre parler, oui.
Non, justement, c'est pour ça que il va y avoir une corrélation avec quelque chose qu'elle va vivre. Et en l'occurrence, ça m'a beaucoup atteint et j'ai été là. Et je suis très content d'avoir été là pour elle jusqu'à la fin. Et tu le verras, c'est un parcours qui est quand même assez poignant et qui résonne, je pense, pour beaucoup d'autres jeunes filles.
John, comment tu vis, toi, après le fait d'être connu, reconnu, justement, par des fans de l'émission qui t'écrivent, qui te parlent comme s'ils te connaissaient, parce qu'évidemment, vous vous invitez tous les soirs chez eux. Donc, comment tu vis ça, toi?
C'est très marrant, des fois, de rencontrer des gens qui te regardent comme si tu avais vu hier et qui te disent « j'ai l'impression de te connaître, je te parle et je te dis bonjour » comme si, en fait, tu faisais partie de mon entourage. Et puis, quelqu'un qu'on a pris dit « bon, en fait, désolé, je me rends compte qu'en vrai, non, on se connaît pas ». Donc ouais, ma réaction a dû être un petit peu surprenante. C'est très très déroutant, mais très souvent positif. La plupart des gens sont très très positifs, envoient beaucoup d'ondes d'amour, et ça fait du bien de savoir qu'on a la chance, à travers quelques secondes à discuter avec une personne ou une photo à prendre avec une autre, on arrive à apporter du bonheur. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté négatif. Il y a ce qu'apportent les personnes mal intentionnées qui profitent de la visibilité dont tu fais preuve pour essayer de t'atteindre.
Ouais.
Ils y arrivent des fois. Personne n'est insensible au mal qui peut être dit ou fait, mais c'est dérisoire vis-à-vis de tout le bon qu'il y a à côté.
Est-ce que toi, John, il y a d'autres émissions auxquelles tu aimerais participer ou que tu rêverais de participer? Je vais te citer en exemple Pékin Express, Koh-Lanta ou des émissions de ce type.
Je t'avoue que une aventure sportive de dépassement de soi où on va découvrir les gens chez eux, comme Pékin Express, le vivre avec ma chérie, je pense que on réfléchirait avant de dire non.
Bon, John, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je crois que tu vis le grand amour aujourd'hui.
Ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à vivre mon rêve éveillé comme je suis en train de le vivre avec ma chérie. Alicia et moi, on a eu la chance de se rencontrer, on va continuer de profiter de cette chance. Donc, réussir à passer chacune des étapes qu'on veut passer avant de créer notre famille. Et voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça arrive très vite.
Ben nous, on te souhaite que du bonheur en tout cas.
Merci beaucoup, c'est très gentil et merci à toi, merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien.
La Villa des Cœurs Brisés, c'est tous les soirs du lundi au vendredi à 19h. C'est même deux jours en avance sur Salto si vous le souhaitez. Merci John d'avoir été avec nous et puis à très vite.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Julie, t'es content de retrouver Tristan?
Ouais, je le sens mal.
Elle est épanouie, frérot.
Et toi, Tristan?
Moi, très content. Elle le sait, Lucie, ce qui s'est passé entre toi et Tristan.
Mais ça a absolument rien passé encore.
Oh là là, encore, elle a dit.
Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut me tester? Est-ce qu'elle veut juste essayer de récupérer Tristan?
On va faire une session plage.
Ah, voilà.
Tristan, Jonathan, et bien sûr, Cassandra.
Bienvenue sur ma plage privée.
Waouh! Julie, on s'apprécie vraiment. On a un gros feeling tous les deux, donc affaire à suivre.
Dans un instant, Guy Lagache nous rejoint pour les grands entretiens sur LCP, alors ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
C'est dans un stade du quartier, les voyous sont tombés là. Et elle en joue, tout son visage elle innove. Mais bon voilà, elle a joué, elle a perdu. Il a dragué, le bel est tombé, il la rappelle plus. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. Il sort d'un bac plus 4, dans sa vie tout va bien. Il est en couple, ça date, mais madame n'est plus un petit soin. Il va dans une soirée, mais bon là y'a son ex. Il s'est fait cramer, allait se marier, mais elle a dit next. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Prends ce que t'as, profite. De base elle est sérieuse, à l'école 18 sur 20.
Chut, on écoute la télé, chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Coup de cœur télé sur les grands entretiens de LCP, ça continue et c'est avec Guy Lagache en ce moment que les grands entretiens se déroulent. Ils ont commencé le 14 mars dernier à 23h avec Delphine Horviller et Paul De Brulle, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs les replays sur lcp.fr. Et dimanche prochain à 23h, ce sont les portraits de la présidente et fondatrice de l'agence ImageCept Anmo et du fondateur de la société MK2, célèbre dans le cinéma, de Marine Karmitz. Des grands entretiens mené par Guy Lagache, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Guy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Six grands entretiens sur le thème de grande destinée, on peut dire, et vraiment des personnalités qui ont fait vraiment chacun de leur côté dans leur domaine, qui ont apporté vraiment des pierres à l'édifice.
Oui, absolument. L'idée, c'était de s'intéresser à des gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, cassé les codes, fait des choses singulières, marqué pour un certain nombre d'entre eux soit la vie des Français, soit la société, et de comprendre en gros comment chacune de ces personnalités s'est construite dans son parcours pour devenir ce qu'elles incarnent aujourd'hui pour beaucoup de Français.
Comment vous préparez, Guy, ces grands entretiens, là, pour le coup, sur le thème des parcours inspirants?
D'abord, ça nécessite beaucoup de recherche, de lecture et aussi de rencontres avec chacune de ces personnalités. Vous mentionniez au début de l'émission Anne Méo et Marine Karmitz. Je les ai vus un certain nombre de fois pour préparer l'émission. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit d'un entretien mené sur une trentaine de minutes. Or, chacun de ces parcours pourrait faire l'objet de plusieurs épisodes de une heure, si vous voulez.
Oui, on a des goûts trop peu des fois même.
Bah oui, mais tant la richesse est forte,
Bien sûr.
Par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, tout l'enjeu, c'est non pas de faire une biographie chronologique qui m'intéresse, c'est des points, de mon point de vue, qui sont éclairants sur ce qui constitue les points de bascule de leur trajectoire qui permettent de comprendre comment ils se sont construits. Et donc voilà comment j'ai procédé.
C'est aussi un décor particulier, les grands entretiens, avec une réalisation particulière où vraiment vous, Guy, et votre invité sont mis en lumière sur un décor noir. C'est-à-dire vraiment, on ne voit que vous finalement à l'écran.
Ah oui, c'est un peu comme dans une bulle, c'est assez particulier, mais en même temps, ça permet une forme d'intensité dans le dialogue. C'est-à-dire que il n'y a pas d'artifice, tout est épuré, c'est tout noir, à l'exception de l'écran dans lequel on diffuse des éléments visuels, ça peut être des mots, ça peut être des images, ça peut être des photos, pour faire réagir la personnalité à un élément de son parcours. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en gros, c'est deux choses. C'est à la fois très élégant, et en même temps, ça permet de se focaliser sur ce qui est dit et sur le récit, parce que c'est pas une simple conversation. L'idée, c'est de conduire ça comme un récit avec des enjeux, avec un début, un milieu, une fin, et que ça tienne en haleine le téléspectateur comme un film, un documentaire peut tenir en haleine quelqu'un devant son écran.
Alors, vous aviez reçu, par exemple, lors des premiers 6 grands entretiens que vous aviez fait, Xavier Niel, qui a fait énormément dans le domaine de la téléphonie, Jack Lang, qui a fait énormément pour la culture, Serge Papin, Maurice Lévy. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des parcours inspirants que vous n'avez pas réussi encore à avoir et que vous aimeriez peut-être pour une troisième session? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous rêvez d'accueillir en face de vous?
Il y en a plein, enfin, qui m'inspirent. D'abord, il y a tous ceux que j'ai fait cette fois-ci qui sont extrêmement intéressants parce que, avant de vous parler de ceux que je souhaite interviewer, il y a ceux que j'ai interviewés qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que Marine Carmi, qui est un exemple d'un homme qui, a priori, fait quelque chose contre nature. On ne se dit pas, par exemple, quand on fait du cinéma, que grâce au cinéma d'auteur, donc un cinéma un peu pointu, on va pouvoir à la fois faire beaucoup d'entrées et beaucoup d'argent d'une certaine manière. Aujourd'hui, on dit que c'est plutôt le blockbuster, les grosses machines qui fonctionnent. Or, Marine Carmi a une vision de la façon d'envisager le cinéma qui nous éduque, le cinéma qui nous apprend, le cinéma qui nous rend différents. Et ça, je trouve que c'est intéressant. De la même façon, Anne Méo, qui est une femme qui, dans un milieu politique extrêmement masculin, parfois très misogyne, s'est imposée pour créer sa propre entreprise, toujours fidèle à ses convictions, mais avec des valeurs extrêmement fortes. Comment justement elle s'est hissée dans un monde dominé de façon écrasante par les hommes et pour continuer à être guidée par ses propres convictions. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. De la même façon, Paul Dubrune, fondateur, on l'a vu la semaine dernière,
du groupe Accor,
qui était donc un cancre absolu à l'école et qui en a fait un des leaders mondiaux. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ces parcours? Et puis, il y a quelque chose d'inspirant parce que ça nous permet, nous aussi, d'une certaine façon, d'être inspirés, d'avoir des perspectives. Donc voilà, donc aujourd'hui, dans cette série, c'est ça qui m'intéresse. On le verra dans quelques semaines avec Agnès B, ou encore le philosophe Bruno Latour.
Oui, ça c'est le 11 avril.
Ce sont des gens qui pensent différemment, qui parfois se mettent à l'écart de ce qui est accepté ou acceptable, mais qui, par leur conviction, par leur vision, s'acharnent à vouloir continuer sur leur terrain et ainsi proposent, in fine, une vision du monde totalement différente. Bruno Latour, il est aujourd'hui l'icône mondiale de la pensée écologique. Agnès B. a proposé au monde une alternative à la mode, à ce qu'on appellerait aujourd'hui la fast fashion, et elle était la première à le faire. Bon, pourquoi? Mais parce que ces gens qui ont été guidés par des choses intérieures extrêmement fortes et d'en comprendre les ressorts, c'est ça qui m'intéresse. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, que ce soit des Français, que ce soit des étrangers. Évidemment, il y a plein de gens dont j'aimerais continuer à faire le portrait par le biais d'entretien.
Moi, ce qui me plaît dans vos grands entretiens, Guy, que ça soit dans ceux de Daphné aussi, hein, qu'on a reçu il y a quelques semaines, c'est vraiment qu'on apprend des choses sur ces gens-là, sur ces parcours. On apprend des choses que, évidemment, même si on les suit dans leur domaine respectif, on ne sait pas forcément. Vous arrivez à leur faire dire des choses que personne ne sait aujourd'hui. Donc, c'est aussi un vrai talent d'arriver à les faire comme ça, donner des choses quand même assez privées de leur vie et de leur parcours.
Bah, disons que ce qui est intéressant avec LCP, c'est que vous avez le temps. Et c'est de plus en plus rare à la télévision. Il y a peu ou pas de programmes qui vous permettent, sur 30 minutes, de converser comme ça avec une personnalité pour aller au fond des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi des choses. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont inventer, vont aller dans telle ou telle direction? Donc, il y a quelque chose d'un peu introspectif. L'idée, c'est pas de faire du tout de la psychologie de comptoir. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en gros comment ces gens-là créent des systèmes, qu'est-ce qui les conduit, qu'est-ce qui les motive. Et ce qui m'intéresse, c'est de creuser ça avec eux. Ça ne veut pas dire d'être de connivence, au contraire, mais d'être avec eux comme de raconter une histoire et de leur faire verbaliser une histoire en fonction du point de vue, évidemment, que j'ai sur leur personne. Et c'est vrai que LCP et les grands entretiens sont un format qui est, de mon point de vue, assez rare à la télévision, permettant justement cette forme d'expression qui est à la fois sur le long format, mais en étant extrêmement haletant dans la façon de raconter leur trajectoire.
Eh oui, des parcours de vie hors du commun. Vous pouvez revoir eh bien ceux de Delphine Horviller, femme rabbin, et de Paul Dubrulle, cofondateur du groupe Accor, déjà en replay sur lcp.fr. Dimanche à 23h, vous pourrez suivre les parcours de Anne Méo, présidente et fondatrice de l'agence Image 7. Marine Karmitz, fondateur de la société de cinéma MK2, également suivant à 23h30. Et le 11 avril, eh bien on pourra découvrir les portraits d'Agnès B, styliste, et Bruno Latour, sociologue, ethnologue et philosophe. Six grands entretiens menés par Guy Lagache. Guy, est-ce que vous avez d'autres projets pour 2021? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver avec d'autres chaînes de télé, peut-être aussi?
Oui, bien sûr, je suis en train de travailler sur d'autres projets. Alors, j'aime bien créer des surprises, donc, mais évidemment, il y a d'autres projets d'émissions qui sont en cours actuellement et qui devraient arriver dans les mois à venir.
On sait pour quelle chaîne, on peut le dire déjà ou pas du tout pour l'instant? C'est encore un peu prématuré.
Je préfère garder ça encore un peu pour moi.
Bon, ça nous fera l'occasion de se rappeler.
Ben absolument. Avec grand plaisir.
Bon, merci en tout cas Guy d'avoir été avec nous. Et puis on va écouter tout de suite un petit extrait justement de votre entretien avec Marine Karmitz. À bientôt Guy, merci.
À bientôt.
Les grands entretiens, l'idée c'est d'avoir des gens qui ont des parcours inspirants, qui ont cassé des codes, qui ont marqué leur domaine, voire marqué la société française, et de raconter pendant 30 minutes dans une conversation comment ils se sont construits pour en arriver là. Et ça, c'est singulier à la télévision. LCP est une chaîne qui est une chaîne du savoir, une chaîne du citoyen, qui essaye de nous donner des perspectives dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça la force de cette émission, c'est de pouvoir s'exprimer avec une très grande liberté. Alors ne loupez pas les grands entretiens, c'est extrêmement inspirant, ça donne matière à penser. Et c'est sur LCP.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand plaisir de recevoir Sylvain du groupe Boulevard Désert à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Loin des yeux, qui sera dans les bacs dès vendredi. Il sera avec nous 3 jours plus tard, on peut pas faire mieux. Thélo Azaïs également, qui joue Enzo dans la série Ainsi Grand Soleil, sera notre invité. On parlera notamment du sujet du consentement actuellement à l'antenne dans la série. Nous aurons le plaisir également de parler du film Meurtre à la pointe du rat avec Evelyn Wicks qui sera notre invité. Bref, beaucoup de surprises vous attendent encore lundi prochain. Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 11h40 sur Bergerac 95. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé. Et vous pouvez eh bien télécharger dès maintenant notre application Chute, on écoute la télé pour iPhone et Android. Je vous retrouve également lundi prochain à 19h pour la Grande Hebdo. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Bergerac 95. 95.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale Porte de la Dordogne à Cresse.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.